Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette année, là, on va fêter le 70e anniversaire du décès de Denis Peyrouni. Alors, Peyrouni, ça s'écrit P-E-Y-R-O-N-Y, mais nous, en Sarlandais, on prononce le Y, pas le dernier. Hein. Alors, donc, c'est Peyrouni, hein, j'ai l'habitude de prononcer comme ça, donc je vais continuer. Alors, je disais que Peyrouni, il est né à Cussac, près du Buisson, en 1869, il est décédé à Sarlat en 1954. Madame Elena Payet lui a consacré en 2023 un roman historique paru aux éditions Jean-Paul Gissereau. Il est titulé donc ce livre Denis Peyrouni, balade préhistorique d'un instituteur de campagne. Alors, bien sûr, il y a des indications en quatrième de couverture qui sont toujours très intéressantes. Alors, pour l'autrice Elena Payet, elle est conservatrice en chef du patrimoine au service régional d'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, membre de l'UMR 65-66, créa de l'Université de Rennes. Elle s'intéresse depuis de nombreuses années à l'histoire de la préhistoire à Périgord et participe à l'étude de plusieurs sites préhistoriques de la région. Elle a publié plusieurs guides aux éditions Jean-Paul Gissereau et Daniel Peyrouni, Balade préhistorique d'un instituteur de campagne et son premier roman. Alors, c'est un roman historique, je le précise. Voilà, alors, Rennes, moi je connais Rennes 2, parce que j'ai participé quelquefois à des réunions dans cette très jolie ville de Bretagne. Voilà. Alors donc, pour en revenir à Peyrouni, voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couverture, comment un petit village de Dordogne est-il devenu la capitale mondiale de la préhistoire ? Dans le cœur des scientifiques et touristes du monde entier. C'est à Denis Peyrouni, 1869-1954, que l'on doit cette révolution. Fils de paysan, maître d'école, simple et discret, bouleversera en quelques années, par sa volonté, son ardeur et son enthousiasme, tout à la fois la science préhistorique et le territoire de la vallée de la Vézère. Ce livre est le récit de son histoire, de ses fouilles et ses découvertes, des grottes ornées aux abris sous roches, des hommes de Néandertal au musée des Aisies. Denis Peyrouni nous amène en balade sur les sentiers du Périgord, mais de la fin du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale, ce sont six évolutions du monde qui se racontent à travers les yeux d'un instituteur fervent défenseur du patrimoine, de la science et investi dans le développement de toute une région. Alors voilà ce qu'on nous dit à la fin de ce livre, que je vous conseille, donc Denis Peyrouni par Elena Payet, alors ces balades préhistoriques, je le précise, d'un instituteur de campagne. Alors, voilà ce qu'on nous dit tout à la fin de ce roman historique au lecteur. Alors Denis Peyrouni a consacré sa vie au développement scientifique et structure des Aisées de la vallée de la Vézère. Voilà donc comme on vient de le dire. Alors, ces très nombreux articles sont pour la plupart consultables en bibliothèque ou en ligne et ces ouvrages peuvent être trouvés d'occasion chez les libraires spécialisés. Mais plus que tout, pour le lecteur intéressé par cette histoire humaine et scientifique, une visite des gisements préhistoriques et des grottes ornées, pour beaucoup ouvert au public, en a pour le mieux compte de la beauté de ce pays. Le Musée national de préhistoire, ses collections et sa terrasse à la vue environnante complétera ce pèlerinage moderne. En un tour au parc du Bourna et au musée de la rue du Temps qui passe, permettra de se replonger par la magie du Périgord au début du 20e siècle. Enfin, un bain de soleil sur la terrasse d'un café aux Aisies reste à mes yeux le meilleur remède à la morosité. Bon, c'est bien vrai, c'est vrai que les Aisies, mais en plein été, il y a beaucoup de monde, mais il y a toujours quand même une place où l'on peut quand même se désaltérer. Alors donc, elle continue ainsi, donc ce chapitre au lecteur. Dans ce récit, j'ai emprunté à Denis Peyrouni de nombreuses formules ici de ses écrits publiés ou inédits. Les descriptions, des découvertes, ainsi que de nombreuses anecdotes dont je reprends la lecture sont plus exactes possibles. Toute la rencontre avec Jérôme Carcopino est purement fictive. Alors on va Alors, je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'écriture de ce récit. Alors, bien sûr, il y a bon, des gens qu'on connaît, comme Clélie Merle, Jean-Marie Barbiche, qui est à Périgueux, Harry Bergouin, et puis il y a Catherine Crétin, etc., etc. Alors, je remercie le Pôle international de la préhistoire, le Musée national de préhistoire, pour l'autorisation d'utiliser les clichés en première et quatrième de couverture. Alors, les remerciements tout particuliers, et je remercie plus que tout Patrick Payet pour ses conseils, ses relectures, son soutien sans faille, c'était hier, et c'est demain. Voilà. Alors, là, bien sûr, comment je pourrais dire, la couverture de ce livre, ben, il y a une photo de Denis Peyrouni, tout souriant, sous sa moustache. Et puis, en quatrième, il est avec son fils, dont on parlera la semaine prochaine, donc Élie Peyrouni, qui prendra en quelque sorte sa suite. Alors, il a quand même beaucoup écrit. Alors, j'ai, comment je pourrais dire, dans ce roman donc historique, qui est fictif, hein, Peyrouni arrive, si je n'arrive pas mes idées, voilà, dans ce roman historique, Peyrouni arrive à Vichy en 1941 pour rencontrer Jérôme Carcopino, qui était, comment je pourrais dire, originaire du sud, Corse, je crois, voilà. Alors, c'est un historien spécialiste de la Rome antique, alors secrétaire d'État à l'instruction publique. Carcopino démissionnera de son poste en 1942 et aidera à la résistance. Une de ses lois réglementant les fouilles archéologiques sera validée en 1945. Alors, blanchi de toute collaboration, auteur de Rome à l'apogée de l'Empire, il est en 1955 élu membre de l'Académie française. Alors, voilà pour Carcopino. Bien sûr, son entrevue, est, comme je disais à l'instant, est purement fictif. Donc, pour en revenir à notre auteur, Denis Peyrouni, une alerte, donc dans ce roman historique, pour, le fait se réfugier dans une salle de classe où il est rejoint par Paula, une secrétaire chercha un abri. Cette rencontre va lui permettre d'évoquer son parcours de préhistorien et ses rencontres avec des personnalités du monde de l'exploration. C'est des sites préhistoriques nombreux en Dordogne, et plus particulièrement dans la vallée de la Bézère. Alors, comment je pourrais dire, donc, je vous laisse découvrir, bien sûr, cette histoire qui est assez captivante, d'ailleurs. Alors, Louis Capitan, son mentor, lui enseignera l'art et la bonne manière de fouiller, la vieille Breuil, évidemment, et l'antiquaire Hauser, qui était suisse et non pas allemand, la Castanet de Serjac, le fils de Mortillet, Jean Maury, etc. Puis les découvertes jusqu'à Lascaux et l'évolution des Aisies devenue la capitale de la préhistoire. Voilà ce que nous dit Elena Payet, donc dans le chapitre, comment je pourrais dire, dans ce livre, donc Denis Peyrouni. Voilà. Alors, mais à toute fin, je vous laisse découvrir tout cela en lisant son livre, Denis Peyrouni, balade préhistorique d'un secrétaire de campagne qui deviendra inspecteur des monuments préhistoriques et conservateur du musée des Aisies. Alors, il a quand même laissé des écrits, hein, Peyrouni. Alors, en 1924, paraîtra un petit livre par la taille, donc il fait 14 de haut sur 10 de large, et qui est intitulé « L'humanité primitive dans la région des Aisies » par Capitan et Peyrouni. Donc, son mentor Capitan lui a, comment je pourrais dire, a co-signé également ce livre. Alors, c'est publié, ça se trouve à la bibliothèque Stock, et ça a été publié, je vais le trouver, chez Delamain et Boutelot et compagnie, donc, à la librairie Stock à Paris. Alors, donc, il y a bien sûr plusieurs chapitres, et il y en a un intitulé « Historique des découvertes dans la région des Aisies ». Voilà ce qu'ils nous disent les deux auteurs en 1862, Édouard Larté, passant devant la devanture d'un minéralogiste parisien, Charvet aperçut quelques fragments de brèche renfermant des silex et des os de rennes. La curiosité du paléontologiste le poussa à entrer et à s'enquérir de la provenance de ces spécimens. Il avait été extrait ils avaient été extraits de la grotte des Aizis, Vallée de la Vézère, en Périgord. Cette révélation amena l'Arte à projeter un voyage d'études dans cette région encore ignorée des savants. S'étant adjoint l'anglais Christie, ils partirent tous les deux, débarquèrent aux Aizis en août 1863. Ils explorèrent tour à tour la grotte des Aizis et les vastes abris sous roches de gorges d'enfer, l'Orgerie haute, l'Orgerie basse, le Boustier, l'Hiveyre, la Madeleine. Partout, ils mirent à jour des ossements des animaux ayant servi de nourriture à des peuplades primitives associées à leur industrie lithique et osseuse. Non seulement ils retrouvaient les restes caractérisant la faune de cette époque, dénotant un climat froid, mais aussi l'image des animaux, mammouths, rennes, ours félins, bovidés, équidés, cervidés, etc., tracés par l'homme sur les voies ou sur os. Voilà. Alors, donc, ça poursuit ainsi. En 1868, l'Arte continua la tradition paternelle. Alors, son fils fut chargé par le ministère de l'Instruction publique d'exhumer les squelettes humains que venait de mettre à jour dans l'abri de Comagnon des travaux de déblaiement. Puis les Aizis virent se succéder dans ce domaine jusqu'à ce jour, le marquis de Vibré, Marty, Franchet, etc., etc. En 1872, Masséna exhuma à la Jorie basse un squelette humain gisant sous les roches éboulées dans une couche archéologique magdalénienne. Voilà. Donc on va laisser ce petit livre, donc, qui date de 1924, et publié chez De la Main et Boutelot et compagnie, et qu'on pouvait trouver aux librairies Stock. Alors, Denis Peyrouni, bien sûr, a écrit autre chose. Il a écrit sur les Aizis un livre qui s'appelle « Les Aizis ». Ces musées d'art préhistorique, et donc et c'est édité par Denis, inspecteur des monuments préhistoriques. Voilà ce qu'on nous dit. Les Aizis possèdent plusieurs musées, celui d'archéologie préhistorique récemment organisé et ceux de gravures, de peintures, de sculptures dont la création remonte, peut-on dire, aux premiers âges de l'humanité. La profusion de richesses qu'ils renferment s'explique par l'importance de ce coin de notre Périgord à l'époque quaternaire. Les vallées de la Vézère et de la Beune, à peu près complètement creusées à ce moment, sont des routes naturelles. Sous les corniches surplombantes de leurs falaises, les grottes et les terrasses bien exposées deviennent autant d'habitats. Capitale du monde préhistorique, les Aizis ont conservé, plus que toute autre région, des vestiges de l'industrie et de l'art de nos premiers ancêtres. Voilà, alors donc c'est publié, donc je crois que j'ai oublié de le dire, c'est publié par Henri Laurence, éditeur, en 1931. En 1931, ils étaient 6 rue de Tournon à Paris, bien évident. Alors, les hommes de la Micoque, il y a une centaine de mille ans, quelques huttes de branchage se dressaient sur la terrasse abritée de la Micoque. Autour d'un brasier, des êtres d'aspect simiesque, tête longue et projetée en avant, calotte crânienne aplatie, arcade saucière en visière, se régalant d'un quartier de cheval. À leurs pieds gisent les massacres, les épieux et de bois et les silex qui ont servi à la fabrication. Ce sont les premiers hommes connus. Ils sont les témoins de grands phénomènes géologiques. Les glaciers ne sont pas descendus jusque-là, mais à la suite d'hivers rigoureux, la débâcle des neiges et des glaces enfle considérablement la rivière, d'énormes glaçons charriés par les eaux s'entrechoquent, labourent le sol, corrodent des falaises et finissent par donner à la région cet aspect actuel. Le froid chasse vers des régions à température plus clémente le lion, les grands éléphants, tandis que le mammouth, rhinocéros à narines cloisonnées, munis d'une épaisse toison, viennent prendre leur place. Après un laps de temps indéterminé, la brusque adoucissement de la température provoque de grandes inondations. Les eaux s'élèvent de 15 à 20 mètres au-dessus de l'étiage actuel, puis leur retrait se produit sur la terrasse de la Micoque et de nouveau occuper la présence d'objets roulés alternant sur une profondeur de 6 mètres avec des traces d'occupation et de niveau stérile sont dans ce gisement les témoins irrécusables de ces phénomènes. Finalement, la Micoque se comble et cette terrasse où se sont succédés les préchelets où les Cheléens ou Achéens est définitivement abandonné. Voilà, alors je vais arrêter là cette lecture et je vous donne rendez-vous, bien ma foi, la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et bon, je crois que la température va évoluer. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.